10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleureau, Mickaël Darmon.
Bonjour Alain Montebourg.
Bonjour.
Vendredi, Daniel Cordier, secrétaire de Jean Moulin, témoin et héros de la France libre, est décédé. Il avait 100 ans. En 2018, il s'exprimait au micro de Jean-Pierre Elkabbach. On écoute, on regarde.
C'est un homme qui m'avait fait confiance. J'étais un enfant et qui m'a donné des tâches. Et au fond, j'aurais pu faire ma vie avec lui. Et brusquement, je me suis retrouvé tout seul.
Il parlait de Jean Moulin. De Montebourg.
Alias Caracalla, les mémoires de Daniel Cordier qui raconte sa vie risquée pour défendre la France, sans rien attendre en retour. Ce sont des parcours qui doivent aujourd'hui nous inspirer, parce que c'est grâce à ce type d'hommes, et ils ont été très nombreux, que nous avons pu vivre en liberté et surtout retrouver la France qui aurait pu disparaître.
Alors dans ce livre, dans le livre que vous publiez, dont nous allons parler, vous chantez les louanges du gaullisme, on va y revenir. Vous avez quitté le gouvernement et le poste de ministre de l'économie en août 2014, remplacé par Emmanuel Macron. Vous êtes devenu entrepreneur, un spécialiste du miel Made in France, et vous avez continué à faire vivre ce que vous appelez l'esprit de la marinière, ce maillot de fabrication française que vous aviez porté pour faire la promotion du patriotisme économique qui est votre étendard. Alors aujourd'hui, vous revenez, êtes-vous à la recherche d'un redressement affectif auprès des Français, alors que vous incarnez avec d'autres l'échec de la gauche du gouvernement, vous nous le direz. Le livre que vous publiez est un voyage au cœur d'une présidence Hollande qui, selon vous, était impuissante face aux attaques des grands prédateurs américains et chinois. Vous faites aussi un portrait décapant et cruel du président Macron. Vous le comparez à l'artiste transformiste Frégoli, parce qu'il change, vous dites, de costume en un clin d'œil, et un chanteur de variété, Julien Doré, parce qu'il recycle le texte des autres. Mais en vous, Arnaud Montebourg, n'y a-t-il pas du Cyrano également, impétueux et théâtral, aimant surtout la joute et le geste, est suffisant pour rassembler des Français inquiets et fatigués? Aujourd'hui, le pouvoir brandit vos idées de toujours, souveraineté industrielle, Made in France, et vous décrivez un idéal, la République des abeilles, qui ressemble aussi, au fond, à une déclaration de candidature. Donc avec aujourd'hui Damien Fleureau de CNews et Nicolas Barré des Échos, nous allons justement voir dans quelle mesure effectivement ce retour est-il donc probant ou sincère. Et vous allez donc nous dire effectivement dans quelle mesure, effectivement, parce qu'Emmanuel Macron parle cette semaine, eh bien est-il aujourd'hui sincère à vos yeux ?
Voilà, écoutez, je n'ai pas de brevet de sincérité à donner à quiconque. Il faut déjà veiller sur sa propre sincérité. Elle est très importante, ne serait-ce que parce que c'est le fluide de la confiance entre la parole dite d'un responsable public que j'ai été et les actes qu'il doit mettre en œuvre. D'ailleurs, toute l'histoire de ce voyage dont vous parlez, qui est un voyage qui donne des leçons pour le futur, pour que tout cela ne se reproduise pas, c'est la relation entre, finalement, le contrat moral qui a été passé au moment d'une élection, qui est quelque chose de très important pour que la confiance permettent à la France ou à un pays comme le nôtre de s'élancer vers un projet, et puis l'abandon des gens, des engagements. Et ça, c'est destructeur, et c'est ce que j'ai vécu à l'intérieur de cette machine politique qui avait perdu la tête, et j'ai voulu la reconstituer avec les sentiments, évidemment, forcément subjectifs du narrateur, et, pardonnez-moi, sincères.
Alors, on va y revenir, Damien Fleureau.
Oui, une question d'actualité, Arnaud Montebourg. Le président de la République s'exprimera donc mardi sur le desserrement de la contrainte sanitaire. Pas un déconfinement, hein, prévient l'Élysée. Cette reprise en main de la gestion de la crise par Emmanuel Macron, cela va dans le bon sens, vous trouvez ?
Écoutez, je ne sais pas ce que j'observe, c'est que nos résultats, à la fois en nombre de personnes qui ont perdu la vie et en termes de destruction économique, sont désastreux. Quand vous regardez les pays asiatiques, eux ont appris d'autres pandémies, et dont il n'était pas inutile que nous apprenions d'eux aussi, surtout après les dégâts du premier confinement et de la première vague, il n'était pas inutile d'apprendre, une fois qu'on avait déconfiné au mois de mai-juin, peut-être de trouver d'autres méthodes que celles qui a consisté à nous reconfiner,
donc
détruire encore l'économie.
Catastrophique pour vous ?
Désastreuse. Quand vous avez 40 000 morts Et les dégâts économiques, on a une perte de PIB qui doit être entre 10-12 points, c'est énorme. On n'a pas connu ça depuis la guerre, finalement. Donc les dégâts sont énormes avec des problèmes de misère qui surgissent dans notre pays, de gens qui vivaient de leur travail. Voilà ce qu'on est en train de vivre dans ce pays. Je dois vous dire que les résultats sont quand même ne sont pas à la hauteur. L'Allemagne a eu 4 fois moins de morts, quand même, avec des destructions économiques qui sont 2 fois moins importantes. Je rappelle que la Corée du Sud, qui a environ 50 millions d'habitants, c'est comparable à la France, a eu 475 morts et ils n'ont pas confiné. Donc ils n'ont pas détruit leur économie. Donc est-ce que on peut dire que c'est une réussite? Je ne crois pas.
Alors finalement, on vous entend aussi vanter une forme de mondialisation. Nicolas Barré.
Non, c'est aller apprendre des autres. Ça s'appelle l'humilité que je défends là, vous voyez. Alors, apprendre des autres qui ont réussi, c'est pas inutile.
Alors justement. Sur la mondialisation, peut-être, on assiste en ce moment à une course mondiale au vaccin. Mmh. Quand on voit les deux premiers qui sont sur le point d'être commercialisés, hein, celui de la biotech allemande BioNTech, qui est derrière laquelle se trouve un grand labo américain Pfizer, et puis celui de Moderna, qui est dirigé par un Français. Au fond, c'est un peu ce qui a été moteur dans ces deux succès, c'est la mondialisation et la concurrence, puisqu'on a des sociétés qui sont dirigées par des Français, des Allemands, d'origine turque, tout ça sera fabriqué dans plusieurs pays. Est-ce que c'est pas finalement le succès de la mondialisation?
Écoutez, vous avez critiqué. Si votre propos à travers le vaccin et de me faire saluer la mondialisation, je trouve que là, c'est tiré un peu par les cheveux. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui va se passer sur le vaccin? Les États qui auront subventionné, soutenu un certain nombre de laboratoires vont capter les vaccins pour leur population et n'aura pas pour les autres.
Il y a une coopération.
Donc en fait, il y a une sorte de travail en commun des États-nations et des laboratoires adossés sur ces États. Et ceux qui n'auront pas construit une stratégie nationale de liens très solides, et y compris par des mesures fortes, vis-à-vis des laboratoires, ils n'auront pas de vaccin.
Dans le cas de BioNTech et Pfizer, il n'y a pas de soutien de l'État.
Il y a quand même, vis-à-vis
des initiatives privées.
Les Américains ont subventionné combien ? Des milliards pour obtenir en priorité. Et il y a même le président de Sanofi qui a dit « Les Américains auront en priorité nos vaccins, puisque c'est une alliance avec GSK, qui est une entreprise britannique, mais qui a des installations aux États-Unis. Alors, on dit, les Américains auront prié les vaccins parce que eux, ils ont payé. Ce qui démontre bien que ça n'a rien à voir avec la mondialisation, ça a tout à voir avec le retour des États-nations.
À ce propos, Arnaud Montebourg, la semaine dernière, justement, Sanofi annonçait un vaccin fabriqué en France pour pratiquement le mois de juin et avec donc des fabrications du côté de la région parisienne. Donc on voit bien qu'effectivement c'est de ce point de vue-là un vaccin français qui va aussi émerger. Est-ce que selon vous et selon ce que vous dites, il faut le pousser plus que les autres?
Écoutez, je n'ai pas de compétences sur
en termes de vaccinologie.
Je ne suis pas un spécialiste de ces questions.
C'est en termes de politique industrielle.
Politique industrielle, le fait qu'on construise une stratégie d'indépendance vis-à-vis du vaccin me paraît être le béaba, le minimum. C'est l'enfance de l'art. Pourquoi ? Parce qu'on ne va pas dépendre de M. Trump, des Chinois ou de je ne sais quelle multinationale à capitaux privés pour la santé publique de tous les Français. Donc, avoir une stratégie d'autosuffisance me paraît être nécessaire. Je n'ai pas l'impression que ce soit encore le cas. Espérons que ce soit le cas. On a investi, je crois, 200 millions sur les installations de production en France sur les premières séries de vaccins. Est-ce que nous en aurons assez pour toute la population ? C'est ça le sujet. Si ce vaccin est autre chose qu'un communiqué financier ou qu'une communication politique et qu'il y a un vrai consensus scientifique autour de lui, ce qui semble devoir prendre ce chemin. Est-ce que nous en aurons assez pour la population française ? C'est ça la question qu'il faut se poser. Or, en l'état aujourd'hui de nos investissements publics comme privés, cela ne semble pas être le cas. Donc il faut travailler sur cette question.
C'est annoncé dans ce sens-là. Damien Fleurot.
Un sujet économique de cette gestion de crise sanitaire. Bruno Le Maire, qui a obtenu le report du Black Friday afin de permettre aux petits commerces, comme on les appelle, de pouvoir rouvrir peut-être plus tôt et notamment pendant les fêtes. Vous l'auriez fait, ça aussi? C'est une bonne chose?
Moi, je n'aurais pas fermé les petits commerces non essentiels. D'abord parce que je ne crois pas qu'on puisse dire qu'ils sont responsables de la propagation du virus. Vous avez des supermarchés, des hypermarchés qui sont bondés. Il n'y a aucune mesure. alors que les petites surfaces permettent le contrôle sanitaire et permettent d'organiser la discipline collective des clients dans ces petits commerces. Je voudrais dire un mot sur les petits commerces. Hein, moi, je suis petit-fils de boucher-charcutier. Mon grand-père, Henri Montebourg, à Autun, il avait monté son affaire. Je sais ce que c'est que ce travail-là. Je vais vous dire, qu'est-ce qu'un commerçant ? C'est celui qui a mis toutes ses économies pour contrôler sa vie parce qu'il veut être indépendant. Ben, ces gens-là, on leur a mis un trait de plume sur leur vie. Franchement, moi, je vois des situations désespérées. Et ce ne sont pas des gens qui sont habitués à manifester.
Ils sont soutenus, ils sont aidés, soutenus, peut-être pas suffisamment.
Bah, écoutez, on verra les résultats. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des faillites en série qui s'annoncent et des gens qui ont mis tout leur travail, toutes leurs économies dans un commerce, qui vont le perdre définitivement, qui seront ruinés. Vous savez, le chemin du tribunal de commerce, c'est pas très agréable, hein, parce que c'est le déshonneur dans la tête des gens. Mais voilà ce qui se prépare. Voilà. Permettez-moi de prendre le parti de ces gens-là qui ont été maltraités par les décisions bureaucratiques technocratique du gouvernement qui n'a aucune sensibilité au terrain. Voilà Nicolas ce que moi je pense.
Alors, on est dans une année budgétaire un peu particulière. On en est au quatrième collectif. La dette nationale explose. Vous dites qu'elle peut être achetée par la Banque Centrale Européenne. Pierre Moscovici, ancien commissaire européen et puis un ancien de vos collègues au gouvernement, était l'invité d'Europe 1 cette semaine. Voilà ce qu'il en dit.
Je pense qu'il se trompe. Et je pense que se tromper, ça peut arriver, mais que ne pas dire la vérité aux Français, c'est plus grave. C'est pas sérieux de dire « on la remboursera pas », c'est pas vrai.
Alors il dit que vous vous trompez et que vous n'êtes pas sérieux.
Bah, écoutez, si quiconque est capable de me dire comment nous allons rembourser 500 milliards de dettes en plus, c'est-à-dire 7 fois le produit annuel de l'impôt sur le revenu, quand on avait la dette sociale, il y avait 40 milliards. Vous savez, quand on avait les déficits sociaux, à un moment, on a fait le CRDS. On a affecté un impôt sur ce qu'on a appelé la CADES et on a mis 20 ans à rembourser ça. Mais là, c'est 500 milliards, 7 fois le produit annuel.
C'est prolongé, justement.
Donc, c'est impossible.
L'impôt sur la CRDS est prolongé.
Non seulement c'est impossible, mais nous ne pourrons pas le faire sans des jacqueries, des révoltes. Parce que vous allez prendre l'argent sur quel type de contribuable ? Les entreprises, vous allez les ruiner. Les consommateurs, la TVA, comment ? Il n'y en a pas de solution. Et donc, pour moi, les dirigeants, comme le président de la Cour des comptes, qui aujourd'hui explique que ce n'est pas sérieux, je me demande qui est en train de tromper les Français. Donc, nous allons devoir trouver des formules innovantes qui sont bien nécessaires quand même.
Alors, justement,
bien nécessaires.
On va en parler. On se retrouve dans quelques instants avec Arnaud Montebourg.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Mickaël Darmon.
Et Arnaud Montebourg, ancien ministre de l'économie. Nicolas Barré sur la dette, on continue.
Oui, alors vous dites sur la dette publique française, on ne pourra pas tout rembourser. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on explique à tous les gens qui ont prêté de l'argent à la France, en gros, bonne nouvelle, vous ne serez pas remboursé ?
Non, parce que on peut aujourd'hui traiter ce problème sans spoliation de quiconque. Car la Banque Centrale Européenne, comme d'ailleurs ça s'est fait dans tous les mouvements difficiles de l'histoire, la dette de l'Allemagne qui était liée à la guerre, a été annulée en 1953, c'est pour ça que l'Allemagne a retrouvé de la force, et rapidement. Donc moi j'ai une proposition à faire, c'est une annulation concertée de toutes les dettes Covid de tous les pays membres de la zone euro, et un rachat massif par la Banque Centrale Européenne qui donc ne spoliera personne, ni les épargnants, ni personne, voilà, et qui peut être parfaitement annulé, car la Banque des règlements internationaux, qui est la banque centrale des banques centrales aujourd'hui, recommande cette solution pour pouvoir détruire en quelque sorte de la monnaie et faire en sorte qu'on puisse réinvestir. Moi, je proposerai un contrat de réinvestissement dans la reconstruction écologique de l'agriculture et de l'industrie. Bon. C'est-à-dire les investissements fondamentaux pour reconstruire les dégâts de cette crise, qui s'apparente à des dégâts de destruction équivalents à celui d'une guerre, hein, on peut le dire. Eh bien, il va falloir reconstruire. Avec quel argent ? Donc, il va falloir que nous réinvestissions et que nous nous réendettions pour le faire, parce qu'on n'a pas l'argent.
Il va falloir convaincre nos partenaires là-dessus. Hein.
Ben, bien sûr, ça se fait de façon concertée. Mais il faut ouvrir le débat, commencer à le construire. J'ai noté, d'après mes informations, que à la direction du Trésor à Bercy, il y a déjà des hauts fonctionnaires qui commencent à travailler sur cette hypothèse. Pourquoi ? Parce que c'est tout simplement impossible de rembourser cette dette. On ne va pas avoir des plans d'austérité ad vitam a aeternam pour rembourser une dette dans laquelle nous n'avons finalement aucune responsabilité ni morale, ni politique, ni économique. On a subi les dégâts d'une pandémie.
Alors justement, on verra comment Christine Lagarde continue à prendre vos propositions. Damien Fleurot.
Oui, sur l'usine de pneus de Bridgestone qui ferme son site français de Béthune. Vous avez été très critique sur l'attitude de la France, inefficace dans sa lutte contre le dumping, c'est-à-dire la concurrence déloyale. Dimanche dernier, à ce micro, Clément Beaune, le secrétaire d'État aux affaires européennes, vous a répondu.
Monsieur Montebourg, quand il était ministre de l'Industrie, il n'a jamais demandé la réforme des règles anti-dumping européennes. Il n'a jamais fait l'effort d'aller à Bruxelles pour essayer de porter ce combat. C'est toujours facile, j'ai l'impression que Monsieur Montebourg, il n'est pas le seul, se délecte d'une certaine façon de ce qui sont les défaillances de notre système économique.
Monsieur Beaune, il devrait réviser ses fiches, parce qu'apparemment il est mal informé. Non seulement on a obtenu sur un certain nombre de d'aciers spéciaux des mesures anti-dumping, mais par ailleurs, on a commencé à travailler. D'ailleurs, on n'avait pas de majorité. Et ça, c'est sûr qu'on n'a pas de majorité pour le faire parce que les Allemands sont contre. Parce qu'ils veulent vendre des voitures, des automobiles à la Chine. Et ils ne veulent pas. Et eux sont excédentaires vis-à-vis de la Chine. La quasi-totalité des pays de l'Union européenne sont déficitaires vis-à-vis de la Chine. La France, nous, on fait un chèque de 30 milliards vis-à-vis de la Chine. Est-ce que ça va continuer ? Il faut que ça s'arrête. À part l'Allemagne, je crois qu'il y a la Finlande et l'Autriche. Tous les autres pays sont déficitaires. Donc, l'affaire des pneus est intéressante, Bridgestone. Pourquoi on a fermé deux sites Michelin, Goodyear, Continental et Bridgestone en France et aussi en Allemagne,
dans toute l'Europe. En raison du coût de la main d'œuvre française.
Tout simplement parce non, c'est européen. Pourquoi? Parce que c'est pas la coût de la main d'œuvre française, la main d'œuvre allemande est plus chère ou à peu près équivalente. Non, rien du tout. C'est que on a laissé les pneus chinois entrer sans aucune protection aux frontières européennes. Les Américains ont gardé leurs usines de pneus. Ils ont eu les mêmes attaques de la part des Chinois. Mais M. Obama, et ce n'était pas Trump qui a fait ça, M. Obama a taxé à hauteur de 90% l'entrée des pneus sur le sol américain. Qu'est-ce qui s'est passé? La part de marché des pneus chinois sur le sol américain s'est écroulée et ils ont gardé leurs usines et leurs emplois. On ne pourra pas faire autrement vis-à-vis de la Chine que de prendre maintenant des mesures protectionnistes. Qui relève à la fois de ce que le Congrès américain soutenait chez M. Obama et chez M. Trump.
Alors justement, vous revenez sur le devant de la scène politique en démontrant que vous aviez tiré la sonnette d'alarme quand vous étiez donc à l'époque ministre du redressement productif sur ce sujet précisément de souveraineté européenne. Avec la pandémie, on a découvert la dépendance à la Chine et vous l'écrivez d'ailleurs dans votre livre, la France a préféré s'en remettre avec sa désinvolture technocratique habituelle au marché mondial plutôt que de défendre patriotiquement l'outil industriel français. Le président de la République actuel a tiré les leçons. Il parle maintenant comme vous. Est-ce que vous le soutenez dans cette démarche ?
Tout ce qui favorise le Made in France est bon à prendre. Mais nous avons un tel retard. J'ai laissé 34 plans industriels qui n'étaient pas des plans bureaucratiques. C'était des plans qui avaient été construits avec les entreprises de chaque secteur. On avait décidé d'investir de l'argent public, de l'argent privé, de la recherche.
Qui avait été exposé à l'Élysée d'ailleurs.
Recherche, bien sûr. Et ces 34 plans, il y en a un certain nombre qui concernaient la batterie, qui concernaient les véhicules, les automobiles à 2 litres au 100, que les constructeurs n'arrivent pas à sortir. Nous serions dans une avance technologique, si M. Macron ne les avait pas mis à la poubelle, extraordinaire. Les satellites électriques, les dirigeables, là maintenant c'est les Anglais qui le font. Ce sont les Japonais qui les font. Mais les Russes qui le font. Mais nous, qu'est-ce qu'on a fait? Rien, on s'est tourné les pouces. Voilà la vérité. Donc, M. Macron, je veux bien qu'il s'y mette, mais il est en retard. Il est en retard. Et il a commis un péché d'orgueil qui consiste à considérer que ce qui vient de son prédécesseur est forcément mauvais. Vous voyez, c'est l'attitude de M. Beaune, là, son secrétaire d'État. C'est-à-dire que moi, j'ai considéré que mon prédécesseur, c'était Christian Estrosi, du gouvernement Sarkozy, avait eu raison, et j'ai continué son travail. La reconstruction de l'industrie, c'est un travail de 10 années, au minimum, et quelles que soient les alternances. Eh bien ça, vous voyez, M. Macron, il l'a toujours pas compris.
Vis-à-vis de la Chine, Nicolas Barré.
La nouvelle Commission européenne s'est donnée comme objectif l'indépendance, une indépendance stratégique, économique, etc., notamment par rapport aux États-Unis. Et dans votre livre, vous dites « Personne n'a mesuré, moi y compris, à quel point les Américains ne sont plus les alliés. Le libérateur de 1944 s'est mué en oppresseur en 2014. » Vous y allez fort, quand même.
C'est-à-dire, oppresseur. Comme nous ont... écoutez, regardez ce qu'ils nous ont fait dans l'affaire Alstom, que je raconte, vu de l'intérieur. C'est une attaque extérieure, avec le droit extraterritorial des États-Unis, qui est une particularité contre laquelle, pour l'instant, l'Union européenne n'a toujours pas décidé de riposter. Il va falloir le faire, là aussi. car il est devenu un oppresseur. Il est en train de nous dépouiller de nos outils industriels donc, stratégiques.
Joe Biden
9 milliards d'euros d'amende sur la BNP.
Et
on sait se faire. Les sanctions, le dispositif ITAR qui contrôle toutes nos exportations à partir de 22 000 pièces que lui a mis sur une liste, nous interdisant
donc,
de les exporter à qui on veut.
Il faut se... Attention, Joe Biden va être un oppresseur, c'est ça que vous dites ?
Les États-Unis sont un empire. Et les empires veulent nous asservir, nous mais avoir ça... à leurs bottes. Et en plus, nous dépouiller. Ils nous prennent un tribut. Je
mais
rappelle
ça va changer
que nous...
avec Joe
attendez.
Biden.
Attendez. Je vous rappelle que nous sommes une colonie numérique des États-Unis. N'est-ce pas ? Les GAFA. Toutes les données personnelles, l'or numérique, part. Qu'est-ce qu'on attend pour s'organiser en Europe ? Nous avons les moyens de le faire. Nous avons les ressources scientifiques, les ressources financières.
Là-dessus, la Commission européenne commence à agir quand même.
Mais nous avons 10 ans de retard. Encore une fois. Donc, est-ce que Joe Biden... Mais Joe Biden, il est à la tête
d'ailleurs,
d'un
vous
empire.
Vous le connaissez, non ? Comment vous avez fait sa connaissance ? Parce que...
Je l'ai rencontré à Washington, où nous présidions la même table. Il était le vice-président, j'étais le ministre de l'économie. Et nous avons passé le dîner d'État en présidant la même table. Et j'ai fait sa connaissance. C'est un homme de terrain qui a montré des capacités. Maintenant, est-ce que la politique va changer vis-à-vis de l'Union européenne ? Je l'espère. Mais rien n'est garanti, car dans le code génétique de l'Empire américain, il y a quand même un certain nombre d'éléments dont il va falloir se prémunir. Et particulièrement tout ce qui nous a mené à perdre beaucoup de nos outils industriels. Les Allemands ont subi la même chose avec Siemens.
Mais justement, Nicolas Barret.
Tout ce que vous dites sur les États-Unis, c'est pas un peu ce que pense Emmanuel Macron aujourd'hui. Il le dit dans une interview au Grand Continent qu'il faut se méfier de la puissance américaine, justement, que ce serait un contresens de considérer que les États-Unis sont forcément notre partenaire.
Alors, je vais vous faire une
confidence.
Je n'écoute plus les discours de M. Macron parce qu'il y a une chose et son contraire. À boire, à manger, dans un sens, dans l'autre, je ne sais plus ce qu'il pense.
C'est
qu'il
le « et en même temps ».
C'est-à-dire que le « en même temps », c'est qu'on ne comprend plus rien et on ne sait pas où on va. Voilà. Excusez-moi de vous dire ça. Donc moi, je ne regarde que les actes. Donc quand il y a des actes positifs, par exemple sur le « Made in France », relocalisons en France, je dis « c'est bien ». Voilà. Mais sinon, les discours, j'y ai perdu mon latin. Excusez-moi.
Il plaide aussi aujourd'hui pour une Europe forte en disant qu'il faut absolument refondre l'espace Schengen. Est-ce qu'il faut, selon vous, durcir effectivement les conditions aussi d'entrée dans l'espace Schengen ?
Je crois qu'un État ne peut pas faire l'économie de contrôler ses propres frontières, à la fois sur les entrées de biens et services ou toute personne qui cogne à sa porte. Pour moi, c'est la base de la reconstitution de notre indépendance.
Mais des frontières nationales ?
Nationales. Moi, je suis favorable à ce que les États européens reprennent le contrôle de leurs frontières, parce que c'est l'exercice de leur souveraineté et de leur liberté. Voilà. Moi, je suis favorable à ça. Maintenant, on pense qu'on veut. Donc moi, je ne suis pas du tout en accord avec ce que on a laissé faire et qui a porté atteinte à notre indépendance. Voilà. Je suis favorable à ça. Et ce n'est pas pour moi être une position anti-européenne, c'est une position d'avenir où les États reprennent le contrôle sur leur destin. Et de même que les Français souhaitent reprendre le contrôle sur leur propre vie, eh bien nous avons besoin collectivement de réaffirmer notre force. Parce que nous sommes faibles. Nous avons été faibles face aux attaques extérieures de la part des Américains. C'est ce que je démontre dans... ce que je montre, il n'y a même pas besoin de démontrer. C'est une sensation absolument affreuse pour un ministre de l'économie d'avoir le sentiment d'humiliation. Parce que c'est ça qui s'est passé. Nous avons été faibles face à la façon dont l'Union européenne nous a imposé 10 ans de politique d'austérité qui nous a affaiblis, nous a empêchés de reconstituer nos forces. Hein ? Nous sommes trop faibles. Et donc, reconstituer notre force, je crois que c'est la chose sur laquelle, moi, je veux participer, m'engager.
Alors,
parce que c'est plus possible.
Arnaud Montebourg, voilà. On va se retrouver dans quelques instants, parce que de la force, vous en avez récupéré avec le miel.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1, avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Mickaël Darmon.
Et l'on retrouve Arnaud Montebourg, ancien ministre de l'économie. Avant d'en arriver aux vertus politiques du miel, parlons de ce que vous appelez aussi dans votre livre « L'esprit de la marinière ». Vous avez posé à l'époque pour un dossier du Parisien sur le Made in France et vous le dites, c'est un mouvement de société qui s'est déclenché autour de cette marinière fabriquée en France, le Made in France. Est-ce que, au fond, c'est la matrice d'un projet pour la France Made in Montebourg ?
Je n'irai pas jusque-là. Je dirais que c'est un engagement personnel, constant, et finalement, que j'ai mis en œuvre dans mes propres les petites entreprises que j'ai créées avec des gens de métier. On l'a fait dans l'apiculture, on l'a fait dans l'arboriculture, on le fait maintenant dans l'élevage laitier.
Mais les Français vous en parlent encore, notamment de cette couverture de magazine, cette marinière, quand ils vous voient dans la rue, quand vous les rencontrez.
C'est vrai, ils y croient parce que c'est aussi une manière de se rassembler autour d'un projet de reconstitution de nos forces, et de nos forces économiques. Et quand on veut défendre notre mode de vie, il faut bien qu'on achète les produits qui sont fabriqués ici. Sinon, on défend le modèle des modes de vie qui sont concurrents et qui sont beaucoup plus destructeurs. On peut acheter des jouets en Chine, c'est moins cher, certes, mais d'abord, il y a des gens qui sont beaucoup moins bien payés et les lois environnementales existantes là-bas sont mauvaises. Donc, on se donne bonne conscience avec des lois environnementales ici, mais en fait, en achetant là-bas, on encourage la violation de règles environnementales qui, finalement, participent à la destruction de la planète. Or, il n'y a qu'une planète. Donc finalement, il y a un moment où il va falloir recoller les morceaux de la cohérence. Et c'est ce que font les Français de plus en plus.
Alors, pour cohérence, Nicolas Barré.
Ce Made in France, le gouvernement aussi y croit, puisque Bercy annonçait cette semaine une série de projets industriels qui seront soutenus par l'État, d'ailleurs, dans des domaines comme l'agroalimentaire, la 5G et autres, la santé. On a l'impression que c'est vraiment la stratégie économique qui est suivie aujourd'hui, c'est de promouvoir le Made in France. Donc c'est en quelque sorte la suite de vos idées.
Mais c'est ce qu'il faut faire. Vous soutenez. Mais c'est ce qu'il faut faire. Et le faire avec beaucoup plus.
Donc là, vous croyez, là, il y a une sincérité du gouvernement dans cette démarche.
Je ne dis que ce que je pense, monsieur Darmon, à votre micro, comme à tous les autres micros. Excusez-moi, quand c'est bien, c'est bien, quand c'est pas bien, c'est pas bien.
Donc là, c'est bien.
Ça, c'est bien. Et il faut amplifier. Je voudrais donner l'exemple du MITI japonais. Le MITI japonais, c'est le ministère de l'économie au Japon. Ils ont décidé de mettre de l'argent dans le rapatriement de toutes les usines que les Japonais avaient installées en Chine. Et ils ont eu 1674 projets pour un montant de réinvestissement sur le sol japonais de 14 milliards d'euros. C'est sur le site du MITI. Et ce qui est intéressant, c'est qu'eux subventionnent à 75% le coût du rapatriement. C'est-à-dire la fermeture d'une usine, donc la perte d'un outil de production, et la reconstruction ou la réinvention sur le sol japonais. On est loin de tout ça. Pourquoi ? Parce que l'Union européenne a encore des règles qui traînent sur l'interdiction des aides d'État, et vous avez aujourd'hui des entreprises qui certainement ne pourraient pas financer plus que peut-être 20%, 25%, parce qu'il n'y a pas de cash dans les entreprises aujourd'hui, sauf de la dette. Hein. Et donc, il y a des besoins d'investissement, de relocalisation, et sur lesquels il va falloir qu'on amplifie le soutien. Et moi, ça ne me gêne pas qu'on verse des subventions pour réimplanter des usines en France.
Pour relocaliser, il faut aussi qu'il y ait une fiscalité qui soit à peu près au même niveau que chez nos voisins. Le gouvernement a baissé les impôts de production, mais enfin, il reste quand même supérieur en France par rapport à la plupart des autres pays européens. Cette baisse des impôts de production a été critiquée, notamment à gauche, en disant on ferait mieux d'utiliser ces milliards, 10 milliards par an, pour soutenir le pouvoir d'achat. Vous êtes de quel côté, là, dans ce
Alors,
débat-là ?
Alors, d'abord, je note une chose, c'est qu'on a commencé à par baisser l'impôt sur les sociétés, qui est un impôt sur les revenus des entreprises, et non pas sur le travail des entreprises. Et franchement, on a fait les deux. On a commencé à diminuer l'impôt sur les sociétés, et en plus, on diminue l'impôt de production. Moi, j'aurais préféré qu'on diminuât les impôts de production tout de suite, puisqu'on taxe même quand l'entreprise ne fait pas de bénéfices. Et donc, moi, je suis favorable à la baisse des impôts de production.
Mais dans le contexte, est-ce que c'est utile ? Puisque beaucoup d'entreprises qui sont en difficulté ne perçoivent pas ces impôts. Donc,
ça ne sert à rien. Pourquoi ? Parce que les statistiques, c'est qu'il y a à peu près 300 entreprises qui vont vraiment bénéficier. Toutes les petites entreprises, d'ailleurs la mienne, j'ai fait les comptes. Qu'est-ce que ça fait si on me les supprimait ? On ne les supprime pas, on les réduit. Si on me les supprimait, je crois que c'était infinitésimal. Donc ça ne changera rien pour les petites entreprises. Donc en fait, la baisse de l'impôt de production a un intérêt s'il y a une contrepartie. Par exemple, une relocalisation, on peut décider que tous ceux qui relocalisent, on les exonère d'impôt de production en attendant la baisse générale. Je pense qu'elle est nécessaire, mais il faudra trouver une solution pour financer les collectivités locales. Parce qu'en fait, on a besoin de financer les investissements publics locaux. Donc moi, je suis assez favorable à la stratégie qu'ont observé les Länder allemands, où en fait, ils votent des euros additionnels sur les impôts nationaux. Hein, par exemple, CSG, par exemple, IRPP, CSG pour financer les prestations sociales locales, IRPP pour les investissements, impôt sur le revenu, personne physique, par exemple, ou impôt sur les sociétés des entreprises. Donc, c'est ça. Moi, je préférerais qu'on baisse l'impôt de production et que on ne baisse pas l'impôt sur les sociétés des entreprises.
Damien Fleurot.
Oui, on revient à votre livre. Vous rendez hommage, en quelque sorte, au gaullisme. Cela vous permet, semble-t-il, de faire des connaissances, d'entamer aussi un dialogue avec des adversaires d'hier. Écoutez et regardez.
Prenez notamment les propositions d'Arnaud Montebourg sur l'industrie. Ah, lui, il a fait bouger des choses. Lui, il a aussi une vision, on ne peut pas partager à 100%. Je ne partage pas tout à 100%, mais il y a une véritable volonté. Rassembler ma famille politique, oui, mais rassembler aussi au-delà de ma famille politique.
L'alliance du souverainiste de gauche et du gaulliste social, c'est un modèle possible ? Ou c'est une caution ?
C'est difficile. D'abord, je veux rendre hommage à Xavier Bertrand, qui se bat dans les Hauts-de-France.
Ah, moi aussi, je veux rendre hommage. D'accord. Oui, moi aussi. Là, vous parlez, en fait. Vous avez un dialogue, tous les deux. Au-delà de cette émission et de ces micros.
J'ai des dialogues avec des gens très différents. Et heureusement, parce que le sujet aujourd'hui, c'est pas la droite, la gauche, les bleus, les rouges, les verts, les...
Il s'est mis en retrait de sa famille politique.
Attendez, le sujet pour moi, pardonnez-moi, monsieur, le sujet pour moi, c'est la France. C'est comment on va relever le pays avec des dégâts incommensurables. Et comment on va venir en secours aux Français qui sont dans une situation très difficile.
Donc il faut une forme d'union nationale gaullienne.
Je ne sais pas comment tout ça va se nouer. Mais ce que je sais, c'est je peux rendre hommage à Xavier Bertrand parce que ce qu'il fait dans les Hauts-de-France, il a réhabilité la politique. Et à la tête de sa région, il fait un gros travail. Est-ce que les idées que défend Xavier Bertrand, il y en a certaines que j'approuve profondément, mais il n'est pas le seul. Je peux prendre par exemple Olivier Marleix, qui a fait une enquête sur Alstom, qui défend la politique industrielle.
Un élu des Républicains.
Oui. Par exemple, j'ai signé une tribune avec un membre du Parti communiste français sur la question de Nokia, par exemple. Je suis d'accord avec. Est-ce que, par exemple, certaines idées de Jean-Luc Mélenchon me sont étrangères ? Certaines ? Non. Donc, vous voyez bien que, moi, mon sujet,
vous
c'est pas les équipages
politiciens.
Vous ne citez pas,
les socialistes, votre ancienne famille politique, ils ne sont plus d'utilité, ces socialistes ?
Ah non, moi, je suis un homme de gauche, j'ai 30 ans de parti socialiste dans les jantes.
Vous dialoguez encore ?
J'ai roulé ma bosse avec... J'ai évidemment beaucoup d'élus. Socialiste.
Mais vous donnez un peu.
Qui m'encourage dans les propos que je défends. Et on en a aidé beaucoup sur le terrain.
Arnaud Montebourg, vous ne donnez pas un petit peu le beau rôle aujourd'hui. Vous faites partie de ces fossoyeurs de la gauche du gouvernement. Vous étiez au quinquennat Hollande. Vous le racontez de manière certes cruelle, mais c'est aussi votre échec.
Je prends ma part d'échec. Je ne considère pas avoir réussi. Mais, parce que y a eu le livre explique. Comment il y a eu un accord ? Pourquoi il a été trahi ? Et pourquoi on en est arrivé là ? Quand je passe l'accord avec François Hollande, il dit « Si cet accord se défait, tout se défera », l'accord, il l'a défait, et tout s'est défait derrière. Il n'a même pas pu se représenter. Son Premier ministre, M. Valls, s'est exilé en Catalogne, quand même. C'est quand même pas courant, ce genre de situation.
Nicolas Barré.
Vous êtes lancé, finalement, dans le monde de l'entreprise, hein, avec plusieurs entreprises, mais... On sent bien que ce qui vous motive vraiment, c'est la politique, c'est le retour en politique ?
Non, parce que, je vais vous dire d'abord, j'ai créé ces entreprises avec, dans le miel, avec des apiculteurs, à chaque fois avec des gens qui connaissent les choses, parce que j'ai beaucoup à apprendre. Vous voyez, à 58 ans, on apprend tous les jours. C'est quand même formidable, d'abord. Deuxième, et on apprend, y compris à son détriment, et on reprend. C'est ça, l'histoire de la vie. Donc l'entreprise, pour moi, elle a une vertu et une force, c'est qu'elle participe à transformer la société. Moi, je crois à ça. Et d'ailleurs, ça, c'est la divergence avec, par exemple, Jean-Luc Mélenchon, qui n'adhère pas à l'esprit entrepreneurial que j'ai chevillé au corps.
Vous avez découvert l'entreprise,
mais je ne l'ai pas découverte, je la connais depuis longtemps. Non, certes, je suis issu d'une famille de petits artisans.
Mais maintenant.
J'ai été avocat. Donc je travaillais à mon compte, tout seul avec deux collaborateurs. Je l'ai fait pendant 8 ans, voilà. Il fallait payer les échéances de l'URSSAF, monsieur Darmon, voilà. Donc j'ai vécu avec l'esprit de l'indépendance, vous voyez, de l'indépendant même. Et là, j'ai recréé, c'est vrai, ces petites entreprises dans les marques alimentaires équitables, parce que on peut transformer la relation entre le consommateur et le producteur agricole. Donc en fait, j'ai créé des sociétés d'entraide. Le consommateur, il soutient le producteur, et le producteur lui donne un produit de grande et de meilleure qualité, transparent, tracé, français, à côté de chez lui.
Mais au-delà de ça, votre moteur, c'est aussi la politique.
Pour moi, je vais vous dire, ce qui ne m'a jamais quitté dans l'entreprise, c'est la France. Voilà. Et ce qui ne m'a pas quitté dans mon parcours politique, c'est l'entreprise. Donc, c'est quand même, si j'ai envie de vous dire, ce sont des apports qui se sont noués et qui sont restés en moi. Donc, je ne peux pas vous dire que c'est l'un ou l'autre. J'ai envie de vous dire, c'est l'un et l'autre.
Le vôtre en même temps. On se retrouve tout de suite pour en parler.
10h, 11h, le grand rendez-vous européen avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleureau, Mickaël Darmon.
Et Arnaud Montebourg, ancien ministre de l'économie, justement, c'était le 27 août 2014 au ministère de l'économie. C'est qu'en souvenir, on écoute, on regarde.
Je connais ton talent, ta force, ton énergie. Les désaccords ne sont pas un problème. Ils ont toujours été même une richesse.
Tu vas ouvrir une nouvelle page de ta vie. On la regardera avec bienveillance. Je ne doute pas que dans cette nouvelle page, tu continueras à travailler à cet effort collectif.
Arnaud Montebourg, on entend donc lors de cette passation de pouvoir au ministère de l'économie des échanges plutôt mielleux, peut-être un peu intéressé d'ailleurs de la part d'Emmanuel Macron à l'époque, vous concernant.
Je ne sais pas. Quand à ce stade-là, je me souviens, Emmanuel Macron était mon sherpa à l'Élysée. On avait travaillé 2 ans ensemble.
Peut-être déjà avec beaucoup d'ambition.
En tout cas, il m'avait aidé. Donc je raconte comment j'avais pu m'entendre avec ce garçon.
Oui, parce que vous dites, ça vous étonne même.
On s'était entendu sur un malentendu finalement. Bon, c'était un peu ça.
Sur votre goût de la transgression.
Il y avait de ça. Et mais en même temps, comme d'habitude, on comprend les êtres à leurs actes. Et les actes sont arrivés après. Avant, il était l'employé du président de la République et il faisait son boulot. Et là-dedans, est-ce que c'était lui qu'il pensait? C'était pas lui. Peut-être qu'il le disait pour le compte de son patron. Il était l'employé. Après, il s'est mis à son compte. Et là, on a vu ses actes. Et là, je ne tiendrai pas ce même discours aujourd'hui.
Alors, des débuts au déboire, effectivement. Et vous dites de lui, quand même, c'est un transformiste, un comédien. Quand même, vous n'êtes pas un petit peu fort? Parce que vous aussi, écoutez, en termes de théâtre, vous entendez quand même.
Enfin, ça, c'est votre opinion, mais moi, je fais pas de théâtre. Moi, je dis ce que je pense. Bon, voilà. Donc, il n'y a pas de théâtre. Contrairement à ce que vous pensez. Maintenant, c'est que certainement, je m'exprime mal, puisque vous pensez que je suis Cyrano. Vous avez dit ça tout à l'heure. Bon, Cyrano, faut pas exagérer quand même.
Il y a pire insulte.
Je n'ai pas encore le nez. Mais je veux juste vous dire un mot. Pour moi, quand vous épousez des costumes différents, en changeant de façon très rapide, vous avez perdu le crédit de l'être de conviction que généralement vous prétendez être. Voilà. Donc pour moi, il y a une sorte de libéral californien, un surfeur qui prend toutes les vagues, quelles qu'elles soient, les vertes, les rouges, les bleues, et qui surfe. Mais ça n'est pas un projet. Et dans la période actuelle, on a besoin d'un projet sur lequel on rassemble les Français. Ouais. Après, on est pour, on est contre. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour notre pays? Je résume. Il faudrait refonder la démocratie. Parce que ça ne tient plus debout. Il y a des trop gros problèmes. Il y a perte de confiance. 2, il faut réformer le capitalisme. On ne peut pas continuer avec un capitalisme financiarisé où toute la richesse va à quelques-uns et tous les autres sont écrasés pour leur travail. 3, il faut reconstruire écologiquement l'industrie et l'agriculture. 4, il faut démanteler l'islamisme politique dans notre pays, qui est un problème. Et 5, il faut faire passer la France avant l'Europe. Voilà. Donc comme les Allemands font passer l'Allemagne avant l'Europe, les Italiens, l'Italie avant l'Europe, il ne faut plus que la France défende l'Europe avant la France.
Donc alors, Nicolas Barré.
J'ai résumé ce qu'il faudrait faire.
Un programme, voilà. Nicolas Barré.
On a les grandes lignes d'un programme politique. Vous le disiez tout à l'heure, vous êtes de gauche. À gauche, on voit quand même beaucoup de candidats putatifs pour 2022. Il y en a une qui fait partie de cette liste, c'est Anne Hidalgo. Vous pourriez la soutenir? Vous pensez que ce serait une bonne candidate pour la gauche?
Bah, écoutez, moi, je peux soutenir tout le monde. Hein.
Y compris vous-même, mais
on peut soutenir. La question, c'est pas qui on peut soutenir. La question, c'est qui peut gagner. Parce que moi, je vais
vous
dire...
Elle pourrait gagner, Anne
Hidalgo. Mais qui peut gagner? Je ne sais pas.
Est-ce que la gauche peut gagner?
Attendez, je voudrais terminer. Pour moi, le sujet, il est le suivant. Il n'y a qu'une seule personne, malheureusement, dans notre pays, qui peut faire élire Mme Le Pen, c'est Emmanuel Macron. Donc, pour éviter que Mme Le Pen...
Pourquoi ?
Ben parce que M. Macron s'est coupé de tout un tas de gens, et plus personne ne viendra le secourir face à Mme Le Pen. Voilà. Et avec ses phrases méprisantes pour les Français, mépris de classe, eh bien, il a
qu'il a regretté provoqué... publiquement plusieurs fois, quand même.
Il s'est corrigé, ben ça,
oui, mais j'ai pas l'impression que là, les Français lui aient pardonné. Et en tout cas, ce que je vois, moi, qui suis dans la France profonde, rurale, agricole, ce que je vois des petites villes d'où je suis issu nativement et politiquement, je peux vous dire que...
Donc votre adversaire aujourd'hui, c'est plus Emmanuel Macron que Marine
Le Pen.
Je
pense que l'objectif de la République, c'est de battre Emmanuel Macron pour éviter que Mme Le Pen ne l'emporte au deuxième tour. Donc il faut trouver la bonne méthode pour battre M. Macron dès le premier tour et pour faire un autre projet que le projet de Frégoli, si vous voulez, où on change de costume toutes les secondes.
Oui, mais alors, il y a 10 candidats putatifs au moins à gauche. Et
mais il y en a aussi à droite, beaucoup. Il y en a à droite, à gauche, il y en a partout. Mais c'est comme à chaque fois. Je ne sais pas, mais en tout cas, il y en a beaucoup des candidats à droite et à gauche.
Anne Hidalgo a dit cette semaine qu'il fallait que les écologistes et une partie de la gauche sortent de l'ambiguïté sur l'islamisme. Vous en avez parlé dans vos mesures et vos réformes à prendre. Est-ce que la gauche a été trop complaisante sur ce sujet de l'islamisme politique ?
Moi, je vais en quelque sorte m'épargner des généralisations de la gauche, un tel... Moi, j'en sais rien. Ce que je sais...
Alors, est-ce que l'action du président de la République sur ce sujet-là, le projet de loi contre les séparatismes, est utile et va dans le bon sens, selon vous ?
J'ai pas encore tout à fait compris quels sont les objectifs. S'il s'agit, aujourd'hui, de fermer les mosquées qui répandent des lois, enfin, j'allais dire, de la haine contre la République, je pense qu'il faut le faire. S'il y a des imams qu'il faut renvoyer dans leur pays. Toutes ces questions-là sont des questions tout à fait légitimes. La loi de 1905, d'ailleurs, est tout à fait ferme. Hein. Elle interdit même le prosélytisme contre ceux qui voudraient croire ou ne voudraient pas croire.
Vous doutez finalement de l'utilité d'une législation supplémentaire ?
Non. Il est nécessaire d'intervenir. Est-ce que c'est la bonne méthode ? Je n'en sais rien. Vous me permettrez d'être prudent et délicat sur ces sujets. Mais une chose est sûre, c'est que je ne vais pas passer ma vie à dire « lui, c'est bien, lui, c'est pas bien ». C'est pas du tout l'état d'esprit dans lequel
justement,
je suis.
Parce que
je préfère dire oui. « voilà ce qu'on pourrait faire et ce qu'on devrait faire ». C'est-à-dire le projet sur lequel les Français ont besoin de se situer. C'est plus intéressant que les bons points qu'on donne à la classe politique. Je vais pas répondre
Arnaud
à vos Montebourg, questions.
On va gagner du temps. C'est ce pourquoi vous êtes venu. C'est pas pour commenter les autres, mais pour parler de vous-même. Dans le projet que vous avez décliné pour les Français, vous avez mis effectivement lutter contre l'islamisme politique. C'est un problème important pour vous ?
Oui, parce que par la terreur, aujourd'hui, on laisse finalement, on essaie d'impressionner la République. Et ce qui s'est passé avec l'assassinat horrible du professeur Samuel Paty était pour moi un point extrêmement grave parce que la terreur avait pour but d'empêcher et d'impressionner les enseignants dans leur liberté pédagogique. Et ça, c'est inacceptable. Donc il va bien falloir prendre... J'ai noté par exemple qu'il y a des menaces de mort qui circulent sur Internet qui ne sont pas poursuivies. Pourtant, la loi, le code pénal dit que la menace de mort est poursuivie de 3 à 5 ans d'emprisonnement selon les circonstances aggravantes ou non. Je pense que la reconstitution de ressources judiciaires, policières et d'actions judiciaires pour poursuivre des gens qui violent la loi en toute impunité, comme sur les réseaux sociaux, est nécessaire. Et ça suppose de réinvestir dans la justice et la police. Alors, je voudrais dire un mot, un tout petit mot. C'est à destination du garde des Sceaux et M. Dupond-Moretti.
Avocat comme
l'Allemagne et l'Angleterre, des pays aux populations similaires, ont entre 2 et 3 fois plus de magistrats. Donc les policiers peuvent bien faire leur travail, mais si la chaîne pénale, c'est-à-dire la chaîne jusqu'à la condamnation ne fonctionne pas, est engorgée, ce qui est le cas aujourd'hui, eh bien ça ne vous voyez les conséquences, c'est que ça crée de l'impunité dans le pays.
Est-ce qu'il faut protéger également les policiers, Monsieur Montebourg ? Il y a en ce moment la loi sur la sécurité globale qui crée beaucoup de remous, encore des manifestations hier qui ont dégénéré. Est-ce que vous pensez que cette loi incarne un recul des libertés publiques ?
Je le crois. Je crois qu'elle est dangereuse. Pourquoi ? Parce que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est d'une chose très claire, dit « Tout citoyen peut demander des comptes de son administration à tout agent public ». Donc c'est normal qu'on demande des comptes à la police, c'est un métier très difficile, c'est un métier où il y a...
Mais quand ils sont désignés,
attendez.
Vous disiez à l'instant...
Non, je veux rendre hommage aux forces de l'ordre, c'est un métier très dur, il y a beaucoup de policiers qui sont blessés dans l'exercice de leurs fonctions, parfois tués. Je veux juste dire qu'il est normal que la police soit sous le regard démocratique. C'est normal, ça fait partie de la difficulté du métier. Donc... moi, je suis opposé à cette loi qui, d'ailleurs, pour moi, est anticonstitutionnelle. Elle n'est pas compatible avec les principes fondamentaux.
De manière plus générale, est-ce qu'elle répond à une demande de, on dirait, de sécurité, de protection, même d'autorité que l'on voit émaner à chaque étude d'opinion auprès des Français ?
Écoutez, les syndicats de policiers défendent les policiers, c'est leur travail. Mais toutes les demandes des syndicats, quels qu'ils soient, ne sont pas
toutes
recevables.
Comment vous répondez à la demande d'ordre des Français ?
Mais je viens de vous le dire, des effectifs, des moyens, de la formation, de l'association avec la population. La police qui réussit, c'est une police qui travaille avec la population. C'est comme ça que Chicago et New York ont réussi à éliminer la criminalité qui était à des niveaux insupportables pour la population. Ils l'ont fait en travaillant avec la population, pas en opposant la police et la population.
Rapidement, avec cette esquisse de programme pour la France que vous faites devant nous, vous nous donnez le sentiment...
Ce n'est pas un programme, c'est je crois que c'est le projet sur lequel on pourrait
retrouver. Mais vous nous donnez le sentiment d'avoir envie de vous lancer dans l'aventure d'une candidature à la présidentielle, on se trompe ?
Écoutez, je cherche le chemin de mon engagement. Comme beaucoup de Français, tous les Français, moi je reçois des courriers tous les jours, les Français me disent « comment pourrais-je m'engager ?» Je dis « ben moi j'y réfléchis, certainement, je ne sais pas comment encore. Ce sont des questions personnelles, des questions politiques, à laquelle je n'ai pas de réponse, donc je vous répondrai quand j'aurai une réponse. »
Eh bien, ce sera l'occasion de vous réinviter, c'était le grand rendez-vous d'Arnaud Montebourg, et merci de votre fidélité. À dimanche.
Merci.
Europe 1.